France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Dans les procès politiques, ce sont deux raisons d'État qui s'opposent. C'est la conception qu'a eue d'une part le pouvoir et d'autre part celui qui l'a perdu ou celui qui a cherché à le prendre, deux conceptions différentes de la raison d'État.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Plusieurs procès impliquant des personnalités qui occupent une place de premier plan dans notre vie publique défrayent ces temps-ci la chronique. L'attention est donc attirée, comme souvent, sur la question des rapports entre la justice et la politique, tels qu'ils se concentrent dans le prétoire, une question qui est importante sous tous les régimes et qui est essentielle en démocratie. Nous allons ce matin parler des procès politiques, en concentrant notre attention, parmi la profusion des cas proposés par l'histoire, sur la France depuis deux siècles. Ce sera pour nous interroger sur l'équilibre, toujours incertain, qui peut s'établir entre les deux pouvoirs en cause, tels que les définissait Montesquieu. Pour la justice, il vaut mieux parler d'autorité. Les conséquences de ces procès ont régulièrement pesé sur les régimes successifs et sur les libertés, qu'elles soient assurées ou qu'elles soient entravées. J'ai convié Pierre Alorant pour en parler. Doyen de la faculté de droit d'Orléans, il est un spécialiste reconnu de notre histoire politique et il a organisé avec d'autres un précieux ouvrage collectif sur le thème dont nous allons parler. Il va nous falloir, en sa compagnie, surmonter un obstacle central, à savoir, parmi la diversité des situations, la difficulté d'une définition de ce qui est politique et de ce qui ne l'est pas. La frontière se montrant souvent incertaine et fluctuante. Les accusateurs et les accusés, chacun dans leur rôle, diffèrent d'ordinaire sur ce point, ce qui concerne directement la légitimité du verdict et, après coup, sa portée historique. Nous allons braquer l'attention sur divers cas retentissants, d'âge en âge. Ils ont marqué d'autant plus l'opinion et la mémoire qu'ils sont survenus souvent dans des temps troublés, dont ils ont reflété les incertitudes et aussi la violence qui venait s'inviter dans le tribunal. Et d'abord, deux regards sur le procès de Rion en 1942, où Vichy met en cause les dirigeants de la Troisième République, au premier rang Léon Blum et Daladier, qu'ils accusent d'avoir perdu la guerre. Deux points de vue, deux regards, celui de l'époque et celui de la Libération.
Du Portalet à Rion, chemin de la justice. Non loin d'Urdos, paisible village près de la frontière espagnole, se dresse le fort du Portalet, où étaient détenus depuis le mois d'octobre les principaux responsables de notre défaite. Dans la vieille cité de Rion, le palais se prépare au débat que le pays attend et où le procureur Cassagno prononcera son réquisitoire. Le poids des dossiers atteint 800 kilos. Les ouvriers ont pris possession de la salle des débats. Ici seront les accusés. Ici, les juges. Vers la maison d'arrêt, la France entendra bientôt sonner l'heure de la justice.
Ça, c'était le point de vue de l'époque de Vichy. Et le second, après la victoire.
Le procureur général Cassagno passe à l'offensive contre les ennemis de l'État français. Il n'a pas réuni moins de 800 kilos de dossiers dans le but de confondre les accusés. Et c'est, le 19 février 1942, dans une atmosphère solennelle, l'ouverture du procès. Les journalistes se pressent aux portes de ce tribunal où va se jouer une comédie dont personne ne sait encore si elle sera légère ou dramatique. Et voilà ceux qui auront à juger des errements de la Troisième République. Autour du président Caus, le procureur général Moser et le procureur général suprême Cassagno. Et voici ceux qui défendront les accusés, parmi lesquels Maître Gouin, Maître Le Trocaire, défenseur de Léon Blum, et Maître Ribet, défenseur de Daladier. Mais que se passe-t-il? On croyait assister à un procès de Moscou aux couleurs de la France vichiste, et l'on voit se dérouler une farce sans précédent. Les accusés, les meilleurs orateurs de la République défunte, se jouant de magistrats d'opérette. Ce n'est plus un tribunal d'infamie, c'est une tribune républicaine. Les accusés se transforment en accusateurs. Le vieux maréchal lui-même est mis en cause. Après tout, ne fut-il pas ministre de la guerre en 1934? Les humoristes s'en mêlent et la France collaborationniste se scandalise. Hitler lui-même fait savoir que cette bouffonnerie a assez duré. En avril 1942, à sa courte honte, Pétain fait avaliser en Conseil des ministres la suspension du procès. Désormais, ce serait à l'histoire de juger.
Pierre Laurent, bonjour.
Bonjour, Journal Jeannet.
On peut rappeler que cet épisode est tout à fait symbolique de ce que nous allons évoquer aujourd'hui. C'était le double regard possible sur un procès. Mais nous en parlerons, si vous voulez bien, tout à l'heure.
Tout à fait.
Et vous me disiez il y a un instant que vous trouviez que ce sujet, et c'est pourquoi vous en avez fait un livre, était tout à fait destiné à susciter spécialement la curiosité et le travail de l'historien.
Bah effectivement, on retrouve la chair humaine hein, que cherchait Marc Bloch dans le travail d'historien, le travail de juriste aussi. Hein, c'est pour ça que certains magistrats, comme Denis Salas, y sont également intéressés. Il y a tout hein, dans les procès politiques, comédie du pouvoir, tragédie humaine, on a entendu, farce, bouffonnerie. Donc effectivement, l'historien s'intéresse à la fois à l'éloquence du prétoire et puis au retournement de l'accusation, mais on va en reparler, à la double instrumentalisation, hein, par le pouvoir d'un procès politique à charge contre les ennemis de l'État, et puis, à l'inverse, le retournement pour que les opposants puissent se structurer et puissent prendre à témoin l'opinion, voire l'histoire et la mémoire.
Avec souvent, me semble-t-il, un contraste dialectique entre l'émotion immédiate et la longue durée de la mémoire de ce qui s'est passé, avec une sorte de choc des temporalités.
Oui, tout à fait. Et si on pense par exemple au procès de Jean Zay, hein, en octobre 1940, eh bien, dans l'immédiat, l'impossibilité de prendre l'opinion à témoin, mais au regard de l'histoire et de la mémoire, la victoire, bien sûr, de la République et de la démocratie.
Il faut que nous justifions devant nos auditrices et nos auditeurs, en ouvrant notre conversation, le fait que nous avons concentré notre attention, que nous allons concentrer notre attention sur deux siècles d'histoire de France. On pourrait évidemment, sur ce thème, citer, dans la longue durée de l'histoire des hommes, une quantité de cas. On pourrait aller de Démosthène jusqu'à la répression à Hong Kong, en passant par le procès de Galilée. On pourrait partir de Socrate jusqu'à Louis XVI, en passant par Jeanne d'Arc. On pourrait aller de Cicéron, poursuivant le haut fonctionnaire véreux, Verrès, jusqu'au procès de Moscou, en passant par les Templiers, etc., etc.
Oui, tout à fait. C'était exactement la démarche qu'avait emprunté, comme journaliste, hein, Frédéric Potcher, dans les grands procès de l'histoire. Hein, à peu près la liste que vous venez d'évoquer, hein, qui est à la Prévert. Mais là, on s'est concentré dans l'ouvrage, et comme ce matin, sur la France, même si le regard comparé peut être très intéressant. Par exemple, les procès des anarchistes en France à la fin du 19e siècle et en Italie ont beaucoup de points communs. Et puis, deux siècles, parce que auparavant, hein, avant la naissance de la vie parlementaire et du foisonnement de la presse qu'on connaît à la Restauration, bah, il y a moins de rebonds médiatiques. Et par exemple, sous l'Empire napoléonien, Napoléon fait tout pour que les opérations de basse police conduisent directement à la prison sans passer par la case procès.
À considérer cette longue durée, si on veut apporter quelques constructions, si on veut organiser la réflexion pour ne pas faire simplement une litanie d'événements frappants et colorés, on peut, je pense, installer l'opposition que vous avez choisi de mettre en lumière dans votre ouvrage sur les procès politiques récemment. D'un côté, ceux qui sont définis comme politiques par le pouvoir en place, et de l'autre, ceux qui sont, par le pouvoir en place, affirmés comme non politiques, comme ordinaires, avec rupture de la part des accusés qui, au contraire, disent « si, vous êtes en train de me faire un procès politique ».
Oui, tout à fait. Hein. La politiste Vanessa Codaccioni a établi vraiment une typologie qui est très intéressante et qui reprend ce que vous venez de dire. Hein. Effectivement, il y a plusieurs types de procès politiques. D'abord, un procès peut être politique parce qu'il met en cause tout simplement un responsable politique. On en a beaucoup, y compris dans l'actualité, vous l'avez dit. Et puis, il y a une instrumentalisation par le pouvoir exécutif, avec le choix de juges serviles, des procédures exceptionnel et un verdict qui est en quelque sorte fait d'avance. Et puis, il y a l'instrumentalisation effectivement qui rejoint en quelque sorte celle du pouvoir, où les accusés finalement saisissent, et c'est ça le regard original qu'apporte, je crois, notre ouvrage avec Walter Badier et Noéline Castagnier, c'est que les accusés et leurs défenseurs, leurs avocats, peuvent retourner le stigmate et mettre en accusation le pouvoir en place, comme le fait Léon Blum, comme le fait Gambetta contre le Second Empire.
Alors considérons d'abord, Pierre Alleran, considérons d'abord la première catégorie, celle où le pouvoir en place dit « je vous fais un procès politique » et cela justifie en effet l'exceptionnalité de la procédure, des tribunaux qui sont installés en dehors de l'appareil judiciaire ordinaire et la nomination des juges qu'on choisit en tant que tel. Pour rendre les choses concrètes, je voudrais que nous commencions par braquer notre attention sur le cas particulier des conséquences judiciaires du Petit Clamart. L'attentat, vous savez, du 22 août 1962, l'attentat de Bastien Thiry et des siens contre le général de Gaulle, qui a failli d'ailleurs aboutir à la mort de celui-ci. Il a échoué de très peu. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la manière dont ensuite le pouvoir en place a organiser le jugement de ceux qui étaient accusés.
Oui, tout à fait. Le pouvoir gaulliste. Alors, ce qui est intéressant dans ce procès, c'est que, y compris les accusés et leurs défenseurs, en particulier Tixier-Vignancourt, hein, maître Tixier-Vignancourt, qui sera ensuite candidat aux élections présidentielles de 1965.
Hein, grande voix du barreau sonore et d'extrême droite.
Tout à fait. Hein, et un grand orateur, effectivement, utilise une stratégie de défense de rupture, hein, qui conduit d'ailleurs à la condamnation à mort et à l'exécution de Bastien Thiry, alors que, juste auparavant, dans le procès du général Salan, hein, ils avaient obtenu que Salan reste muet, que les avocats restent dans une défense, disons, classique, et à la grande colère du général de Gaulle, hein, eh bien, Salan évite la peine de mort.
Et de Gaulle, du même coup, supprime, au nom de l'article 16, où cet article lui donne les pleins pouvoirs après le putsch d'avril, supprime la Cour militaire de justice. C'est assez représentatif de ce genre d'attitude liée à un moment d'exception et le remplace par un tribunal militaire qui lui paraît destiné à fonctionner mieux jusqu'à ce que la vie publique revienne à la normale.
Oui. Alors, on retrouve effectivement la raison d'État. Alors, c'est une sorte de clin d'œil de l'histoire, comme souvent, hein, puisque on se rappellera que le général de Gaulle, bien sûr, avait été le premier victime d'un procès politique, hein, le premier procès de Vichy, où il est condamné, hein, pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi, entendez donc son départ à Londres, donc à la peine de mort par contumace.
Il s'en explique dans ses mémoires d'espoir, d'ailleurs. Dans des circonstances aussi dangereuses pour l'État, l'emploi aussi éclatant dans des procès aussi retentissants de deux poids et de deux mesures, c'est-à-dire la condamnation à mort de Jouot et Salan y échappant, l'emploi aussi éclatant dans des procès aussi retentissants de deux poids et de deux mesures ne me permet pas de maintenir une juridiction qui s'est elle-même rendue contestable. Et il ajoute, une cour de justice militaire va être instituée pour fonctionner jusqu'à ce que la vie publique revienne à la normale. Je le citais, la normale et l'exceptionnel, voilà exactement le cœur des choses.
Tout à fait, et le général de Gaulle avait été condamné par un tribunal militaire composé de militants d'Action française, les mêmes qui condamnent en octobre 40 Jean Zay et puis en 41 Pierre Mendès France.
Il place sa réflexion dans un carnet sous l'auspice de cette citation de Joseph de Maistre, je parle de Gaulle, « Un acte politique, et c'est un acte politique dans son esprit, ne se juge pas aux victimes qu'il fait, mais aux maux qu'il évite. » Ça pourrait presque être une épigraphe pour cette partie de notre conversation.
Oui, on retrouve bien, effectivement, beaucoup de critères, hein, du procès politique qui pointent les ennemis de l'État et qui justifient ainsi procédure exceptionnelle, juge aux ordres, hein, les juges qui avaient été choisis pour, dans le cadre de la guerre d'Algérie, sont des juges coloniaux, sont des juges qui, par leur carrière, avaient montré une certaine servilité. Oui, on retrouve effectivement tous les critères classiques du procès politique.
Dans le deuxième cas, ce sont des militaires. Beaucoup ne sont pas uniquement serviles. S'ils l'ont été, ils ont été aussi généralement de grands combattants autour de Gaulle.
Tout à fait.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on voit naître un débat entre deux figures importantes dans le forum, du côté de la réflexion des intellectuels. C'est d'un côté Emmanuel Berle et de l'autre François Mauriac. Parce que Berle proteste en disant « Comment de Gaulle se laisse-t-il encore aller à instituer des tribunaux d'exception ? Le seul fait qu'il les crée suffit à les rendre suspects. Qu'est-ce que c'est qu'une justice qui transgresse les règles qu'elle a elle-même émises ?» Et Mauriac, dans son bloc-notes, répond ceci « L'étrangeté de certains crimes disloque inévitablement le système de répression dont un État dispose. On peut le regretter, mais comment ne pas l'admettre ? Toutes les autres ruines de 1940 ont été relevées, sauf celle-là. » Au fond, Pierre Laurent, ça nous pose la question essentielle. Quelle entorse une démocratie peut-elle accepter de faire à ses principes fondamentaux pour se protéger contre une subversion sans perdre son âme et avec elle la légitimité même de sa réaction ?
Oui, la question avait été posée très clairement déjà sous la Troisième République, en particulier au moment de la vague des attentats anarchistes des années 1892-94, avec le fameux débat autour des lois scélérates et donc des interventions de Jaurès, d'intellectuels, là aussi comme Mallarmé par exemple, comme Bernard Lazare, qui, sans avoir de sympathie particulière à l'égard des attentats terroristes et de leur côté sanglants et meurtriers, je pense en particulier à Émile Henry, et aux 5 morts que provoque l'un de ces attentats rue des Bons-Enfants, considère que les lois scélérates qui ont mis, entre parenthèses, les lois de la République et les garanties judiciaires classiques sont une faute. Et Jaurès les rejoint là-dessus, trouve que le procès est très maladroit.
C'est là qu'on trouve une différence qu'il faut absolument souligner et parfois difficile à préserver entre les démocraties en péril et les régimes dictatoriaux qui se posent moins de questions.
Oui, qui sont... Alors, c'est vrai que, par exemple, dans le cas de l'État français de Vichy, Anne Simonin et Olivier Loube l'ont très bien montré, le procès de Jean Zay en octobre 40 a tous les caractères de cette dictature en gestation. C'est une sorte de procès matriciel qui montre bien que l'ennemi, c'est suivant les critères maurassiens, et Jean Zay les incarnent tous en tant que protestants, juifs, francs-maçons et ministres du Front populaire.
Le garde des Sceaux Joseph Barthélemy, qui à un moment donné rend visite à Jean Zay dans sa cellule d'une manière un peu assez symbolique, puisqu'il explique que sa vie est très très dure, c'est Barthélemy, et que s'il n'était pas là, naturellement les choses iraient mieux. Eh bien, au moment des sections spéciales, c'est typiquement le cas de juridiction d'exception, il envoie une instruction à tous les chefs de cour. Vous vous attacherez à faire porter votre choix sur ceux qui vous seront connus pour la fermeté de leur caractère et pour leur dévouement total à l'État. La chose est bien dite.
Oui, tout à fait. Alors, le passage que vous évoquez de Souvenirs et Solitude, le chef-d'œuvre de Jean Zay rédigé dans sa prison, est paradoxalement très drôle, parce que vous l'avez très bien dit, Barthélemy, qui était pourtant un grand juriste avant la guerre, est croqué comme vraiment ridicule. Il se dit c'est affreux. Alors effectivement, mais c'est pas lui qui croupit dans une geôle de cette dictature qu'est l'État français.
Sur la question de fond que posent ces procès, à la fois en démocratie et en régime totalitaire, je voudrais vous faire écouter un propos de Jacques Izorni dans un entretien avec Alain Bosquet sur France Culture en septembre 1970. Jacques Izorni a été un personnage symbolique dans le barreau qui a à la fois défendu les accusés du petit Clamart et bien antérieurement, il est surtout célèbre pour cela, le maréchal Pétain lors de son procès. Voilà ce qu'il nous dit.
Parlons de l'avocat, du défenseur, de cause politique. Est-ce qu'il est possible que ces institutions soient bonnes lorsqu'il s'agit et d'un procès politique?
La plupart du temps, et c'est un tort, c'est plus qu'un tort, c'est une faute grave, ce ne sont pas les institutions ordinaires qui jugent, mais ce qu'on appelle les juridictions d'exception. Qu'est-ce que c'est? c'est une juridiction qu'on crée, non pas pour les infractions générales prévues par le Code, mais pour un crime qu'on va créer ou qu'on va estimer avoir existé dans une circonstance particulière, en dehors des lois habituelles. On va créer une juridiction spéciale avec des juges qui ne sont pas les juges prévus par la loi en vue d'obtenir des décisions qui donnent satisfaction au pouvoir. C'est ça la juridiction d'exception. Par conséquent, ce ne sont pas les institutions ordinaires. Et évidemment, devant ces juridictions, le crime, c'est toujours le crime de trahison. Parce que c'est la seule manière d'employer un mot qui est un caractère juridique quand on veut définir une situation qui, au fond, n'est rien d'autre que ceci. Dans les procès politiques, ce sont deux raisons d'État qui s'opposent. C'est la conception qu'a eue d'une part le pouvoir et d'autre part celui qui l'a perdu ou celui qui a cherché à le prendre, deux conceptions différentes de la raison d'État. C'est vous dire que ça n'a rien de commun avec la notion que nous avons de la justice. Eh bien, il faut bien dire que la plupart du temps, il y a une certaine sincérité chez celui que l'accusation considère comme coupable. Il n'y a pas toujours des mobiles bas qui font agir les hommes, même en politique.
Pierre Laurent, ce propos vous paraît bienvenu, vous paraît équilibré, vous paraît pertinent ?
Jacques Izorni, en dehors de ses opinions extrêmes, était un grand avocat. Et sa définition est quasi parfaite. Hein. C'est vraiment celle qu'on retrouve dans la typologie déterminée par Vanessa Codaccioni, c'est-à-dire le caractère d'exception, la création d'un crime particulier, hérité d'ailleurs du crime de lèse-majesté. Hein, c'est ça la raison d'État. Une juridiction spéciale, l'accusation de trahison, parce que finalement, c'est l'ennemi de l'intérieur qu'on traque, l'ennemi du peuple en quelque sorte, et puis des magistrats aux ordres. Ça s'applique tout à fait à la Cour de sûreté de l'État, qui a été mise en œuvre, vous le rappeliez, par rapport à la guerre d'Algérie et dans les suites de la guerre d'Algérie à partir de 1963, et puis, bien sûr, à la pseudo-justice de Vichy. Et ce qui est frappant dans le cas du procès de Jean Zay, c'est que comme avocat, comme juriste, Jean Zay croit à la justice même au début du régime de Vichy. Il l'écrit. Il y a un seul jour où il n'écrit pas en prison. C'est le jour le lendemain du procès, du 4 octobre. Il est tellement abattu et cela remet tellement en cause toutes ses croyances qu'il n'écrit ni à son épouse, ni à son père, ni à sa sœur. Et le lendemain, il dit, bah voilà, je suis victime d'un procès politique. Il ne s'identifie pas, contrairement à ce qu'on a dit parfois, à Dreyfus, mais à Blanqui, l'enfermé.
Tiens, pourquoi plus Blanqui que Dreyfus, Pierre-Laurent ?
Parce que Jean Zay se considère comme un condamné politique par un procès inique et non pas comme un condamné racial, puisque même suivant les lois de Vichy, il n'est pas considéré comme juif, même si bien sûr la propagande antisémite se déchaîne à son encontre, en particulier Gringoire et Je suis partout, qui, au moment du procès de Rion, publient son journal secret, qui n'a rien de secret d'ailleurs, qui sont simplement des notes journalières prises en Conseil des ministres.
Alors Blanqui, pourquoi Blanqui ?
Parce que Blanqui, c'est l'enfermé. Hein, c'est celui qui a passé plus d'années en prison qu'à l'air libre et qui est vraiment la victime des procès politiques au XIXe siècle. Donc, il relie l'enfermé.
Il est significatif dans la ligne de ce que vous venez de dire, Pierre Laurent, que, en effet, dans son magnifique journal de captivité, Souvenirs et solitude, qu'on ne se lasse pas de relire, vous l'avez d'ailleurs réédité vous-même dans un volume de la collection Bouquins consacré à l'œuvre de Jean Zay en général. Dans cet ouvrage, dans ce journal, il ne parle de son procès que de façon indirecte. Et vous allez voir ceci.
Depuis mon procès terminé le 4 octobre par une peine politique dont le choix constituait un aveu, personne n'a supposé qu'on songeât à me déporter effectivement. La Guyane, c'est le lieu ordinaire de la déportation. Vichy semblait embarrassé de son prisonnier. Je me croyais oublié dans ma cellule de Clermont-Ferrand. Pourquoi se détermine-t-on soudain à exécuter cette anachronique condamnation ? sous la verrière de la gare, d'où s'abattent des paquets de neige fondue, je ne me pose pas tant de questions. J'ai appris à ne plus m'émouvoir. Cependant, ces mots, la Guyane, l'île du diable, si haut en couleur pour l'esprit quand l'hiver glace le corps, rendent un son étrange. Ils matérialisent tout à coup mon incroyable aventure, symbolisent l'arrachement qui m'emporte loin des miens et de la vie. C'est par là que l'émotion naît et que mon cœur se serre.
Vous retrouvez cette pudeur, Pierre Alorange, chez Jean Zer à propos de son procès dans ces lignes ?
Oui, c'est magnifique. Il ne fait que l'évoquer, vous avez raison. Et avec la double référence, hein, l'île du diable, bien sûr, hein, la condamnation inique du capitaine Dreyfus. Jean Zay est condamné à la déportation, même si elle ne peut pas s'appliquer étant donné l'état des océans à ce moment de la guerre. Et puis, la condamnation politique. Et là, c'est donc le nouveau Blanqui, le nouveau condamné pour ses idées et par une justice aux ordres de l'État français. Donc, cette incroyable aventure qui a conduit Jean Zay en très peu de temps, hein, du fait de son engagement volontaire en septembre 39, alors qu'il aurait pu rester ministre ou parlementaire, qui le conduit donc très rapidement du pouvoir au geôle de Vichy.
On pourrait évoquer à son propos également le cas de Pierre Mendès France, qui est traité de façon aussi inique, mais qui réussit à s'évader.
Tout à fait. Et ils sont très, très amis et très proches dans leurs opinions.
Alors, je voudrais maintenant que nous en venions au deuxième moment de notre conversation, Pierre Alorange, c'est-à-dire le cas des procès très nombreux dans l'histoire où les accusés que le pouvoir public voulait désigner comme ordinaires, en quelque sorte, comme punis pour des raisons pénales habituelles, retournent les choses pour dire c'est un procès politique que vous nous faites et du coup donnent à l'événement, donnent à cette instance un éclat tout à fait particulier. Emmanuel Berl, que je citais tout à l'heure, le disait bien, les verdicts des tribunaux d'exception ne persuadent que ceux qui étaient déjà persuadés. Ils servent mieux la cause de ceux qu'ils combattent que celle des chefs qui les font.
Oui, ce sont les tribunes accordées aux accusés. Alors, évidemment, malgré les intentions du pouvoir, hein, et, avec des stratégies parfois différentes. Hein, mais on retrouve alors l'exemple de Léon Blum, hein, avec la très belle archive du début de l'émission. Léon Blum est l'archétype, hein, de l'accusé politique qui réussit à retourner l'accusation, à dénoncer une procédure conduite par des pratiques secrètes qui ne sont pas dans la tradition libérale et révolutionnaire et républicaine française et qui met en accusation devant l'opinion publique française et internationale, puisqu'il y a la presse internationale, c'est ça qui est très important, et devant l'histoire, et il utilise ces termes même, hein, il utilise le prétoire donc comme une tribune politique mondiale, nous et parlons, c'est la victoire de Léon Blum.
Nous parlons du procès de Rion.
Le procès de Rion, hein, de 1942, qui a une grande importance pour justement la dégradation de l'image de Vichy, non seulement en France, mais par exemple aux États-Unis. C'est très important.
La présence de la presse étrangère est notable. Ça pose d'ailleurs la question du huis clos, parce que certaines dictatures, évidemment, qui craignent l'écho, organisent les choses de façon encore moins ouverte. Vichy ne va pas jusque-là.
Vichy ne va pas jusque-là, c'est probablement une erreur et tant mieux. Et c'est la grande différence avec le procès de Jean Zay, alors qu'il n'était pas à huis clos. Il y avait par exemple l'illustration, hein, qui était présente, qui d'ailleurs, très curieusement, et Jean Zay le note dans son journal, fait un article qui n'est pas du tout à charge, hein, et qui relate les faits. Mais ensuite, la presse collaborationniste, Gringoire, Je suis partout, reprend à charge, évidemment, la mise en accusation du juif belliciste, c'est-à-dire le juif Zay, hein, même s'il ne l'est pas aux yeux des lois de Vichy, qui a voulu la guerre, comme Léon Blum, comme Georges Mandel, par solidarité avec les juifs allemands persécutés par le régime hitlérien.
Léon Blum conclut magnifiquement son propos en disant « Messieurs, j'ai achevé, vous pourrez naturellement nous condamner. Je crois que même par votre arrêt, vous ne pourrez pas effacer notre œuvre, vous ne pourrez pas nous effacer de l'histoire de ce pays. »
Oui, Léon Blum ne se fait évidemment aucune illusion sur le verdict, le potentiel, même si le procès est suspendu à la demande des autorités d'occupation et ne sera jamais repris. Mais il témoigne devant l'histoire, devant le tribunal de l'opinion et devant le tribunal de l'histoire.
Et le malheureux président du tribunal, Caousse, avait déclaré pour la Cour « Le procès n'est pas et ne sera jamais un procès politique ». Il a été de façon éclatante. Et d'ailleurs, François Mauriac explique, commente de cette façon: on comprend pourquoi le procès fut interrompu quand on imagine un accusé de cette taille. L'accusé devenait juge et les juges baissaient la tête.
C'est exactement cela. Hein. Pascal Horry, notre ami, a écrit « Blum a gagné et a gagné devant l'histoire ». Il devient un symbole et c'est ce symbole d'ailleurs qui, retournement de l'histoire, témoigne au procès Pétain en 1945.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors je voudrais que nous revenions en arrière, Pierre Alorant, maintenant, pour montrer que, puisque nous avons promis de parler des deux derniers siècles, pour montrer que, au temps de la Restauration, au temps de la monarchie de Juillet, avait déjà fonctionné cette stratégie de rupture dont l'avocat Vergès a parlé plus tard, ce retournement. Et notamment, il y a le cas tout à fait éclairant des chansons qui ont provoqué en 1821, nous allons en parler, le procès de Béranger poursuivi par la justice de Louis XVIII est tout à fait significatif. Le gouvernement s'indigne du ton des chansons d'opposition que Béranger, qui est en train d'acquérir une formidable réputation de chansonnier, il s'indigne de leur effet, et en particulier de leur effet délétère pour l'autorité des pouvoirs publics. D'où ce procès où le procureur général Marchangy s'oppose à Dupin, qui était futur ministre de Louis-Philippe. Marchangy, le talent littéraire des uns et des autres est frappant avec le recul, explique à propos de Béranger, « Ce poète, ayant acquis pour un si bel emploi le talent des vertus prodiguées, quel usage a-t-il fait de ce talent dans la société? Il a déshérité l'imagination de ses illusions, il a ravi au sentiment sa pudeur et ses chastes mystères. » Il explique que c'est très dangereux la chanson parce que, tandis que la brochure la plus coupable n'exerce que dans un cercle étroit sa mauvaise influence, la chanson plus contagieuse mille fois peut infecter jusqu'à l'air qu'on respire. Et pour illustrer cela, on peut donner à entendre une chanson de Béranger, la fameuse chanson qui s'appelait « Le marquis de Carabas » sur l'air, sur le timbre de Dagobert, où il évoque un des émigrés rentrant en France et se comportant d'une façon que vous allez voir. On comprend que cela ait irrité Louis XVIII et sa cour.
Voyez-vous ce marquis, nous traitant peuple conquis, son coursier décharné, clopin clopant l'a ramené, vers son vieux castel, ce noble mortel marchant brandissant un sabre innocent, chapeau bas, gloire au marquis de Carabas. À moi mes châtelains, vassaux, chassez-moi ces vilains, c'est moi, dit-il, c'est moi, qui seul ai ramené le roi. Mais s'il ne me rend les droits de mon sang, avec moi, morbleu, il verra beau jeu. Chapeau bas, gloire au marquis de Carabas. Qui me résisterait, la marquise à le tabouret, pour être évêque un jour, mon dernier fils suivra la cour. Mon fils le baron, quoiqu'un peu poltron, veut avoir des croix, il en aura trois. Chapeau bas, gloire au marquis de Carabas. Vivons donc en repos, mais si l'on nous repart d'impôts, ici bas pour son bien, un gentilhomme ne doit rien. Grâce à mes créneaux, à mes arsenaux, je puis au préfet dire tout son fait. Chapeau bas, gloire au marquis de Carabas.
Béranger, ironiquement, avait inscrit un épigraphe des actes du procès, car c'est une façon aussi d'être efficace dans la rupture, qu'il a publié ensuite, les deux vers de sa plume. Si l'on ne prend garde aux chansons, l'anarchie est certaine.
Mais la chanson est effectivement un art populaire très efficace, et plus à l'époque que les débats parlementaires, par exemple, hein, puisque avec le suffrage censitaire, donc réduit aux plus riches contribuables, et pour l'éligibilité encore davantage, il y a une quelques centaines de milliers de Français simplement qui participent à la vie politique ou qui s'abonnent aux journaux, qui sont encore assez, assez coûteux. Hein, et, alors que la chanson, évidemment, court encore dans les rues, comme disait Charles Trenet.
Champfort, à la fin de l'Ancien Régime, il est cité par l'avocat Dupin, écrivait « Un homme d'esprit me disait l'autre jour que le gouvernement de la France, c'était une monarchie absolue tempéré par des chansons. La monarchie absolue s'en chagrine.
Oui, tout à fait. On imagine bien que là, la chanson de Béranger, vous l'avez dit, hein, n'a pas dû beaucoup plaire ni à Louis XVIII, ni encore moins aux ultras. Hein. Et on sait que le régime de la Restauration, après 1820, après l'assassinat du duc de Berry, hein, a connu un tournant répressif, alors qu'il avait bien commencé en termes de loi sur la presse, avec la loi de Serres, qui était plutôt libérale. Là, au contraire, il y a des procès, et puis ensuite, ce qu'on a appelé des procès de tendance, c'est-à-dire où on reprochait de manière assez floue à des journaux d'opposition une série d'articles et non pas une incrimination particulière. Et par exemple, Paul-Louis Courier ou notre collègue historien Augustin Thierry sont mis en accusation.
Alors, si on avance dans le temps, on voit que sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire, les régimes sont constamment pris, du point de vue qui nous occupe, les procès politiques entre deux impératifs contradictoires, c'est-à-dire combattre toute prétention des dynasties adverses ou des républicains et en même temps empêcher que soit ravivée par les procès la source de cette revendication.
Tout à fait. Et il y a des désaccords au sein même du pouvoir ou des ministres. Pour certains sont partisans d'escamoter les procès. Dès 1816, donc au début de la Restauration, par exemple, Chateaubriand, hein, qui était quand même très critique.
Qui était légitimiste, mais très attaché à la liberté de la presse.
Tout à fait. Et qui, avec de la monarchie selon la charte, avait déplu hein, beaucoup, n'est pas mis en accusation. On contourne la case procès, simplement. On le prive de manière assez mesquine de sa pension de ministre d'État.
C'est pour éviter l'écho qu'aurait donné un procès.
Exactement. Et sous le Second Empire, il y a le même désaccord entre Baroche et Rouher.
Deux ministres importants.
Hein, au moment du procès des 13, après les élections législatives de 1863, hein, donc ce procès qui a lieu en 1864.
Il faut s'y attarder un instant parce que c'est très révélateur ce procès.
Tout à fait. Baroche est inquiet, justement, que cela fournisse une tribune aux oppositions et que ça soude les oppositions. C'est exactement l'effet que ce procès aura.
De quoi s'agit-il, ce procès ?
Alors, le procès des 13, c'est en fait le procès de la liberté de réunion hein, et d'association, puisque sous le Second Empire, il n'y a pas possibilité d'avoir une association politique permanente de plus de 20. Alors vous me direz, 13, c'est en dessous de 20, c'est de l'arithmétique, hein, dont d'ailleurs les avocats au procès vont beaucoup se moquer, ils vont se moquer du pouvoir. Mais en fait, c'est que le pouvoir est obligé de reculer. Au départ, il y a plus d'accusés, hein, il y en a plus de 30, et donc effectivement, on peut reprocher à cette association qui avait organisé, c'était un comité national qui avait organisé la campagne électorale, donc c'est très moderne, hein, puisqu'il n'y avait pas encore de parti politique. Ce comité qui réunissait toutes les oppositions, donc les orléanistes, les républicains, les légitimistes, fournissait du matériel électoral, des thématiques, on dirait des éléments de langage aujourd'hui avec nos spin doctors, hein, nos conseillers, et même préparait la défense juridique des candidats et des militants qui seraient inquiétés par la police ou par la justice du Second Empire. Il y avait un manuel des libertés individuelles qui avait été publié par deux jeunes avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, Ferdinand Hérold et Paul Joseau.
La justification, c'est qu'il s'agit d'élections et par conséquent, un comité électoral peut dépasser le chiffre en question. Ce qui est notable, du point de vue qui nous occupe ce matin, c'est la manière dont les accusés ont retourné.
Alors, les accusés, effectivement, retournent hein, l'accusation, mettent en procès le Second Empire.
Les politiques, c'est vous.
C'est ça. Et leurs avocats, qui sont les plus brillants du barreau de Paris, qui se fréquentaient aussi à l'époque, Gilles Le Béguec l'a bien montré, hein, avec au sein des parlottes, au sein de la conférence Molé-Tocqueville, par exemple, hein, cette fine fleur du barreau libéral, eh bien, défend également dans la presse, sont publiées leurs plaidoiries, des brochures sont imprimées pour diffuser dans tout le pays les mots d'ordre. Et donc, même si les condamnés, les accusés sont condamnés à 500 francs d'amende, ce qui était quand même assez considérable, hein, chacun à l'époque, eh bien, c'est une victoire politique pour l'opposition qui se ressoude et qui peut préparer une victoire dans les villes en 1869.
Même phénomène avec le procès peut-être encore plus notoire, celui qui révèle Gambetta, le procès de l'Escluse Baudin. Rappelez-nous ce procès, il était très important pour d'abord pour la gloire.
Alors il est encore plus important, même si le procès des 13 est déjà une matrice de cette opposition au Second Empire, c'est, vous l'avez dit, celui qui révèle Gambetta. Donc il y a une incarnation qui est donnée à l'opposition républicaine. Alors qu'est-ce qui était en jeu? On dit parfois procès Baudin ou procès de l'Écluse. Il se trouve que le député républicain Baudin était mort sur les barricades au moment du coup d'État de 1851. Et donc, de l'Écluse.
C'est lui qui avait dit, vous allez voir comme on meurt pour 25 francs. Parce qu'on avait dit que c'était son indemnité parlementaire.
Donc c'est un héros républicain et de l'Écluse, par provocation à l'égard du pouvoir bonapartiste, lance une souscription dans la presse, comme ça se faisait, pour un monument à la gloire de Baudin. Bien entendu, il y a un procès, mais de l'Écluse s'y attendait. Il s'est rapproché, il est devenu ami avec le jeune et brillant avocat qu'est Gambetta. Et Gambetta va magnifiquement mettre en accusation le pouvoir bonapartiste en disant « Mais regardez votre honte, vous êtes le seul régime de l'histoire à ne même pas avoir le courage de fêter votre anniversaire le 2 décembre ».
Voilà un cas tout à fait significatif de retournement, effectivement, les accusés accusant les accusateurs.
Et dans l'immédiat, puisqu'on est en 68 au moment de 1868, bien sûr, au moment de ce procès Baudin, Gambetta devient un grand leader républicain. Il réussit à écarter ce qu'on appelait les vieilles barbes, c'est-à-dire les 48 arts, ceux qui avaient fait la révolution de février 1848 de la Seconde République. Et dans la foulée, aux élections au corps législatif de 1869, il est très brillamment élu à Belleville et à Marseille.
Dans cette histoire des procès politiques dont nous parlons ce matin, Pierre Alleran, c'est une date qui compte, pas seulement à cause de la gloire de Gambetta.
Oui, c'est vraiment avec le procès de Rion qu'on a évoqué tout à l'heure et la formidable plaidoirie de Léon Blum, c'est certainement le plus fort tremplin pour une opposition, pour une structuration et pour une tribune vers l'opinion.
Alors je voudrais que nous courions la poste, je voudrais que nous en venions à notre 20e siècle. Le sujet étant immense, nous ne pourrons pas tout traiter, mais les procès liés à l'anticolonialisme s'inscrivent directement, me semble-t-il, Pierre Alleran, dans la ligne de notre réflexion sur les procès politiques et sur les moments où les accusés se retournent le procès, l'instance contre ceux qui les poursuivent.
Oui, tout à fait. Et il y a évidemment l'exemple frappant de l'affaire Henri Martin, si on prend le titre de la brochure publiée par Jean-Paul Sartre. Donc il y a aussi une mobilisation des intellectuels. On rejoue, en quelque sorte, l'affaire Dreyfus, bien sûr.
C'est une bonne idée de parler de lui, car il est en effet représentatif tout à fait de cette période.
Il incarne totalement, il cristallise la lutte contre la guerre d'Indochine ou la guerre du Vietnam. Les deux expressions sont employées par le Parti communiste français de l'époque. Henri Martin, c'est un fils du peuple, comme on disait pour Maurice Thorez. C'est un fils d'ouvrier à Rosières, dans le Cher, donc un ajusteur, et qui avait été très courageusement, dès l'âge de 17 ans, membre des FTP, des francs-tireurs et partisans. Et il entre dans la Marine nationale en 1944, il est mécano, et il va être bouleversé par un fait militaire, le bombardement du port d'Haïphong le 23 novembre 1946. Et véritablement, il prend conscience que la guerre d'Indochine est une sale guerre. Donc il va mener une propagande intense. Ensuite, il revient à l'arsenal de Toulon. On lui reproche même d'avoir participé à un sabotage, ce qui apparemment n'est pas vrai, mais surtout de démoraliser l'armée et l'arsenal de Toulon. Donc il est condamné. Il y a un procès à Toulon en octobre 1950, puis un autre à Brest en 1951, suite à un vice de forme, mais peu importe. Il y a toute une campagne de presse et qui mobilise, bien sûr, le Parti communiste, le mouvement de la paix, la CGT, des chrétiens de gauche aussi, avec l'abbé Pierre, et puis des intellectuels, Sartre, Paul-Éluard, hein, qui lui dédie un poème, La confiance d'Henri Martin, Picasso qui fait plusieurs portraits. Il y a même une pièce de théâtre qui est jouée avec un certain succès, qui s'appelle le Drame à Toulon. Voilà, donc il y a véritablement campagne d'opinion par rapport, donc, qui prend appui sur la résistance à la guerre coloniale d'Henri Martin, qui sera ensuite un cadre important du Parti communiste français et qui sera même maire adjoint de la commune d'Issoudun dans l'Indre en 1977.
Eh bien, je sens, Pierre-Laurent, que vous avez le goût que je donne la parole à Henri Martin. Il est ici interrogé par Antoine Spire. Dans À Voix Nue, sur France Culture, le 17 septembre 1996.
Henri Martin, vous allez devenir le symbole de la lutte du peuple français contre la guerre d'Indochine. En tout cas, c'est ce que dit le Parti communiste. Dans le livre que Jean-Paul Sartre vous consacre, il explique lui-même qu'au fond, vous êtes l'homme qui représente l'anticolonialisme. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous êtes au courant de ce mouvement autour de votre cas, alors que vous êtes en prison maritime ?
Oui. Alors, je ne peux pas tout savoir, mais je suis quand même au courant, donc par mes avocats. Mais pour en mesurer l'ampleur exacte, c'est plus compliqué. Il y a des noms, vous voyez, de grands intellectuels qui prennent position pour moi, que moi j'ignore. Je ne connaissais pas leur nom à l'avant, je ne vois pas bien l'audience qu'ils ont. Donc, je ne sens pas obligatoirement la puissance du mouvement. Ce que je sens, c'est qu'il y a un mouvement, je ne suis pas seul, et qu'il y a un mouvement qui est en train de naître, quoi.
Alors, les grands intellectuels, Francis Janson, Michel Léris, Jacques Madaule, Jacques Prévert, Vercors, Sartre, Cocteau, excusez du peu, et il faudrait ajouter aussi Jean-Marie Domnac et bien d'autres, ce qui est le signe quand même qu'il y a un réel mouvement. Moi, ce qui m'a frappé en lisant le livre de Jean-Paul Sartre, qu'il consacre donc à votre affaire, ça s'appelle tout simplement l'affaire Henri Martin, alors c'est qu'il rapporte un certain nombre de vos dialogues avec le président, par exemple, du premier tribunal. Alors le président vous dit, vous avez fait l'apologie du refus d'obéissance, et crânement vous répondez, il n'y a pas de désobéissance quand il s'agit de lutter contre un gouvernement qui trahit les intérêts de la France, ceux qui luttaient contre Vichy n'étaient pas des traîtres. Le président vous dit à ce moment-là, mais alors chacun peut faire ce qui lui plaît, et vous vous dites, entre faire ce qui plaît à chacun et désobéir à des ordres criminels, il y a une différence fondamentale. Quant à moi, ce que j'ai vu en Indochine me suffit. Vous êtes sûr que vous avez raison, il n'y a pas de doute possible, c'est tout d'une pièce, un militant arrêté par un gouvernement colonialiste, insupportable, qui finalement rejoue les intérêts de Vichy, parce que c'est un peu ce que vous dites au président. Pour vous, tout est clair.
Je suis là en tant que militant anticolonialiste, je dois dire la vérité, et là je vois vraiment l'intérêt collectif. Je dois faire mon travail, de militant.
Pierre-Laurent, il y a de fait une campagne vaste du Parti communiste. Il y a encore quelque temps, on voyait inscrit sur certaines palissades « Libérer Henri Martin ». Il y a plus de 400 articles dans l'Humanité sur cette question. Et cela pose le problème pour le gouvernement de savoir quel écho il doit donner à ce type de procès. Dans votre livre, je relève ce propos du procureur général de la Cour d'appel de Douai à propos d'une plainte pour injure et diffamation du ministre des Armées. Et le 15 mai 1953, il écrit au garde des Sceaux « J'estime qu'il est tout à fait inopportun d'exercer des poursuites ». À l'époque, les procureurs étaient directement sous les ordres, y compris sur les affaires spécifiques du ministre de la Justice. Le procès, ajoute ce procureur, s'il devait voir le jour à l'audience, serait l'occasion pour le Parti communiste de faire la critique de la politique française en Extrême-Orient. Il est permis de croire que dans les circonstances actuelles, il est préférable de ne pas risquer une poursuite qui, de toute façon, serait largement exploitée contre le gouvernement. Il est peu souhaitable de revenir sur cet article paru il y a plus de 3 ans. On n'est pas plus explicite.
On est exactement dans notre sujet, c'est-à-dire la crainte par le pouvoir d'une instrumentalisation à rebours du procès. Vous l'avez très bien dit, l'Humanité fait une chronique quotidienne consacrée à Henri Martin, donc 400 chroniques. Et ça fait vraiment contraste avec l'attitude du Parti communiste français par rapport à la guerre d'Algérie, et en particulier en 1956, quand un autre militant, Fernand Yvetot, est mis en accusation.
Communiste.
Communiste, bien sûr, condamné à mort et exécuté. Eh bien là, il y a un refus de médiatisation du Parti communiste, qui ne veut pas en faire un procès politique qu'il retournerait contre le pouvoir, parce qu'à l'époque, le Parti communiste français n'est pas sur une ligne d'indépendance de l'Algérie, qui était défendue par ce militant Fernand Yvetot. Donc on voit que l'opposition, elle aussi, elle choisit ses causes.
On peut poursuivre en se portant jusque dans les années 80 avec, par exemple, en France, les procès d'Action directe.
Oui, qui rejoue en quelque sorte la vague anarchiste des années 1890.
Qui, dans le prétoire, se comporte d'une façon délibérément insolente. Il mange du chewing-gum, il lise Alice au Pays des Merveilles, etc.
C'est ça. Et d'ailleurs, Maître Henri Leclerc, grand ténor du barreau, incarne cette politique. Donc, les défenses de rupture, elles ont plusieurs illustrations. On les a souvent limitées à la personne de Jacques Vergès, c'est un peu excessif.
Je voudrais que nous concluions notre conversation, Pierre-Alain Laurent, sur cette question importante qui est celle de la mémoire de ces procès. Nous avons parlé de ces procès dans leur instantanéité et leur effet. Nous avons parlé de leur effet immédiat. Ils comptent et ils pèsent dans le souvenir scolaire et plus général, ce qu'on appelle la mémoire collective. Par exemple, dans le cas du procès de Marie-Antoinette, je vais un peu en arrière par rapport à la limite de temps que nous avions définie. Varesquiel, qui est un excellent historien de cette période, observe qu'il est surtout l'occasion, ce procès, et le moment de la rencontre brutale de deux mondes absolument hétérodoxes, l'un en train de disparaître et l'autre qui se fait jour. Il y a des procès qui portent une force symbolique très grande après coup.
Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé, à juste titre, du procès de Rion et de la stature pour l'histoire, renforcée de Léon Blum.
Qui est parti d'ailleurs d'une opposition, tout simplement, entre deux intentions. Celle de Hitler qui voulait qu'on condamne ceux qui avaient provoqué la guerre et Pétain et son régime qui voulait dénoncer ceux qu'il avait perdu.
Donc c'était... Oui, ce qui était contradictoire, évidemment. Et la contradiction éclate aux yeux de l'opinion. Et puis, il y a le talent oratoire l'éclat intellectuel et le formidable courage aussi de Léon Blum qui transparaît. Un autre Léon Gambetta, bien sûr, qui, là aussi, fabrique sa stature d'homme d'État et de jeune homme d'État au moment du procès, avant de devenir l'homme de la Défense nationale et du 4 septembre 1870, donc de la naissance de la Troisième République. Et puis, ce qui permet de nuancer aussi peut-être l'approche, il y a le cas du procès de Jean Zay, qui n'est pas un tremplin, bien sûr, et qui ne peut pas être une tribune en octobre 1940, c'est trop tôt, la presse étrangère n'est pas là, mais qui, à long terme, et au moment de la panthéonisation, il y a 10 ans, en 2015, de Jean Zay, avec trois autres figures de la résistance sur décision du président de la République François Hollande, eh bien ce procès remet en lumière le courage de Jean Zay et non pas son bellicisme comme l'en accusait le régime de Vichy, mais sa lucidité par rapport à la fois au caractère dictatorial de l'État français et par rapport à la montée des périls hitlériens dans les années 30.
Donc on ne s'étonne pas que ces moments spasmodiques, infiniment théâtraux, puissent, avec le recul, dans la longue durée, compter et peser plus que d'autres dans la mémoire collective.
Tout à fait. Alors c'est le cas en France, on l'a vu aujourd'hui. Ça peut être le cas également aux États-Unis, en Amérique latine, où ça a été même théorisé avec ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'incrimination pour des motifs politiques de l'opposition pour, en quelque sorte, dissuader toute critique du pouvoir en place. Parfois, cette stratégie a été copiée dans les démocraties mêmes, et voire en France aujourd'hui, par exemple avec Jean-Luc Mélenchon.
Bien, chacun aura fait les rapprochements que spontanément il aura le goût de faire avec notre actualité. Nous n'avons pas besoin de souligner les lignes à l'excès. Pierre-Laurent, merci. Votre livre, publié avec Walter Badier et Noéline Castagnier, s'intitule « Procès politique, tribune ou tremplin pour l'opposition ». Vous avez surtout considéré la seconde partie de notre...
C'est l'apport original, oui.
France, 19e, 20e siècle. Vous avez été publié aux presses universitaires de Rennes, très précieuse, et vous avez choisi en couverture un dessin tout à fait représentatif de Sénèpe qui avait été un dessinateur de grand talent, très conservateur dans l'entre-deux-guerres, mais qui a été anti-vichiste, notamment.
Tout à fait.
Et ce dessin, décrivez-le pour donner le goût.
Ce dessin est absolument magnifique puisqu'on y voit le maréchal Pétain roi de justice, mais qui se plante dans l'œil justement le sceptre de justice, et on voit donc les pièces considérables du procès de Rion, et puis un ancien combattant avec la Francisque qui regarde tout ça d'un air un petit peu goguenard. Il y en a une autre qui vous aurait beaucoup plu, Jean-Noël Jeannet. C'est une caricature où on voit le Portalais et prisonnier au Portalais, non pas Georges Mandel, mais même si c'était de lui qu'il s'agissait, mais le buste de Clémenceau.
Je voudrais également faire un sort, avec beaucoup de considération, à l'ouvrage de Denis Salas, qui est parmi les magistrats d'aujourd'hui, un grand spécialiste de l'histoire de la justice, des rapports avec la politique. Le procès politique, 15e-20e siècle. Vous avez utilisé cet ensemble dans la documentation française.
Qui fait autorité et qui considérait essentiellement, effectivement, l'instrumentalisation du procès politique par le pouvoir en place.
Nous avons rendu hommage, on a toujours le goût de le faire, à Jean Zay. Vous avez donné dans la collection Bouquins une publication à peu près complète de ses œuvres, notamment de ce journal de prison, Souvenirs et solitude, que nous évoquions tout à l'heure, mais aussi d'autres écrits inédits.
Oui, de beaucoup de discours, il y en a d'innombrables, recueillis par son directeur de cabinet, Marcel Abraham, et puis les écrits de prison, alors non pas sa correspondance qu'avait publiée sa fille Hélène Mouchardet, mais ses deux romans, dont l'un était inédit, et puis les 21 contes, c'est-à-dire ses nouvelles, qui sont particulièrement réussies, parce que Jean Zay est resté un écrivain de la Résistance, il figurait au Panthéon depuis longtemps sous ce titre, mais surtout un journaliste et un fils de journaliste Dreyfusard, ce qui est d'ailleurs un point commun avec Jean Moulin.
On ne se lasse pas de renvoyer à Souvenirs et solitude, ce journal de prison que Antoine Pro, un Orléanais comme vous, a contribué, un des premiers, à mettre brillamment en lumière.
Oui, un chef-d'œuvre magnifique.
Et puis vous venez de publier, Pierre Alorant, deux ouvrages menus dans leur taille, mais lourds de leur contenu. Je vais dire un Gambetta et également un Jean Moulin, dans une collection à laquelle je voudrais rendre hommage, celle de Cédric Michon. Dites-nous en un mot.
Oui, c'est une petite et récente collection, mais de grands talents, oui, des petites biographies. Donc, c'est Destin chez Calippe. Et effectivement, Jean Moulin, Gambetta, mais aussi Suzanne Lenglen ou Titien. Voilà, c'est extrêmement diversifié avec un principe de parité. Donc, il y a autant d'ouvrages qui sont publiés sur des femmes que sur des hommes.
Et puis, je vous avais reçu ici, voici quelque temps, en 2022... pour parler des débuts de la Troisième République. Le livre que vous avez appelé « Les 10 décisives » 1869-1879, et comme toutes nos émissions, naturellement, elles sont données en ligne et vous pouvez y accéder. En ligne aussi, vous pourrez trouver les références des documents sonores que nous avons utilisés. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Adrien Gaza à la prise de son, Keating Wang à la discothèque et Delphine André pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.